Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous sommes à Bamako, à la veille du 27e sommet Afrique-France. Bamako qui accueille aussi un forum économique, un forum consacré à la jeunesse. Nous avons installé notre studio à l'Institut français du Mali. L'occasion pour nous, évidemment, de vous proposer notre rendez-vous régulier sur l'entrepreneuriat avec le coach Didier Akouété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Tout le monde vous connaît, vous êtes le directeur général d'Afrique Search. Vous n'êtes pas si souvent que cela dans la capitale malienne.
Il fut un temps où j'étais très fréquent. Mais je crois que le Mali revient sur le spot, sur le radar, donc mes retours seront plus fréquents.
Ah d'accord, très bien, c'est un message. Un pays en tout cas parmi les plus jeunes du continent. À vos côtés, Didier Akouété, pour examiner les projets des jeunes, une banquière. Bonjour Koumba Touré.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes directrice générale de Ecobank Mali, les banques qui ont la réputation de ne prêter qu'aux riches, de ne pas accompagner les transformations du continent. Eh bien, vous avez en face de vous, tous les deux, là, les deux coachs, vous avez trois jeunes de 21 à 31 ans, deux filles, un garçon. Certains ont déjà lancé leur entreprise, mais Dieu que c'est dur. Ils ont fait le choix, tous les trois, de l'agroalimentaire. Et vous le savez, les habitudes alimentaires des Africains évoluent à la faveur de l'urbanisation. Alors, ont-ils les bonnes idées, la bonne cible, les bons modèles économiques? Eh bien, c'est à vous de leur répondre et de les conseiller, bien sûr. Et quant à vous, les voisins, si vous nous écoutez à la radio, si vous avez un projet d'entrepreneuriat, si vous souhaitez participer à la prochaine émission, vous pouvez nous appeler notre standard à Paris pour parler à Camille de votre projet. Le numéro de téléphone est toujours le même, 33 1 84 22 71 71. Et puis avant de commencer avec un premier projet, je voudrais juste dédier cette émission à la mémoire de mes collègues et amis, Claude Verlon, Ghislaine Dupont, puisque c'est la première fois que 7 milliards de voisins foulent le sol malien depuis leur disparition il y a 3 ans. Didier Akouété, Koumba Touré, vous êtes prêts pour écouter les nouveaux jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent? Vous savez, on les appelle les JPAG hein, chez nous, ça vous va?
Jusque là, oui.
Allez, c'est parti. Premier projet, on vous présente Alatou qui est autour de cette table à Bamako, à l'Institut français du Mali. Alatou, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 31 ans, vous êtes né à Kaye, vous avez obtenu votre baccalauréat à Bamako, vous avez suivi des études de finance au Maroc. Et votre entreprise, alors par rapport aux autres jeunes qui sont avec vous, votre particularité c'est que votre entreprise elle a été créée par votre maman.
Oui. Hein,
c'est ça, dans les années 90
oui, oui.
Ça s'appelle Danaya Céréales. Mmh. C'était tout petit à l'époque des années 90. Mmh. Et vous avez tout relancé il y a 4 ans. Mmh. Quel est le principe?
Le principe, c'est vraiment une unité de transformation à base de céréales maliennes, surtout des céréales de l'Afrique de l'Ouest. Quand la maman a créé l'entreprise, en fait, c'était pas très à la mode parce que les femmes de son âge n'avaient pas besoin de céréales transformées, mais c'était surtout des expatriés maliens qui demandaient ces produits.
Ouais, parce que les femmes étaient au foyer et elles avaient le temps de passer des heures à cuire des céréales, quoi.
Oui,
en gros, hein.
Ils n'avaient pas de besoin spécifique de ces céréales. Donc, elle était un peu en avance sur son temps à l'époque. Donc, quand j'ai repris l'entreprise, ça trouvait que des jeunes de mon âge se marient, ils ont des emplois, donc ils rentrent tard à la maison, ils n'ont pas le temps de cuisiner toute la journée. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu un boom entre-temps, les céréales ont eu du succès, les céréales transformées. Donc, je me suis investie énormément dans ces céréales pour que ces jeunes aient accès à des céréales pré-cuites pour qu'ils cuisinent en moins de temps possible.
Donc ce sont des céréales pré-cuites, vous avez apporté là les sacs, alors il y a plusieurs variétés de céréales.
Oui.
Le principe c'est que vous achetez aux producteurs, c'est ça?
Oui,
on locaux.
On achète aux producteurs locaux, des coopératives de producteurs d'ailleurs, parce qu'on préfère du producteur jusqu'au consommateur que le circuit soit bien connu. Donc on maîtrise bien nos producteurs.
Donc,
on a des producteurs
à Ségou,
dans plusieurs villes, à Ségou pour le mil et le sorgho, à Sigasso pour le maïs, le fonio en Guinée et à l'arachide à Kita.
Ensuite, tout ça arrive, c'est stocké, c'est trié chez vous, dans votre petite unité de transformation.
Ce n'est plus petit parce qu'on a déménagé en zone industrielle à Dialokorobou, c'est sur 2000 m².
2000 m², 23 personnes.
Oui, oui, c'est quand même un investissement assez immense. Donc on a un grand magasin de stockage de matières premières, on a des machines pour faire des décortiquages, les tamisages, on a des dames aussi pour faire les lavages, la pré-cuisson. Et on a une salle de conditionnement assez grande.
Ouais. Et vous êtes la big boss à 31 ans.
Oui, ça, on peut dire comme ça, je suis la big boss.
Et alors ensuite, donc, ces céréales sont pré-cuites et ensuite distribuées donc, dans des sachets, hein, sous vide, c'est bien ça.
Oui.
Et distribuées où ?
Dans les supermarchés maliens, dans les supermarchés, les supérettes, les boutiques. Mais aussi, on a des clients particuliers qui sont des exportateurs céréaliers qui vivent en France, aux États-Unis, au Gabon, en Afrique de l'Ouest.
Donc, vos clients sont bien identifiés. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous vous sentez avec une forme de plafond de verre, même si l'entreprise est bien développée, mais vous galérez quand même.
Oui. Comme je l'ai dit, on a beaucoup investi dernièrement. Et quand on a mis tout notre fonds propre dans la construction, l'achat des machines, on s'est retrouvé à ne pas avoir de fonds de roulement et on n'a pas de matière première à notre disponibilité. C'est déjà l'ancienne unité, on faisait 1,5 tonne par jour. Et actuellement, on ne fait que 2 tonnes parce qu'on n'a pas de matière première à notre disposition. Donc, c'est vraiment un étouffement pour nous parce que l'entreprise peut aller jusqu'à 10 tonnes de production par jour. Donc, vous voyez tout ce qu'on perd derrière.
Vous n'avez pas assez de cash pour acheter, quoi, en fait, la matière première. Vous avez eu pourtant, il y a 4 ans, quand vous avez repris l'entreprise à l'atout, vous avez eu une subvention de la part de l'USAID, qui vous a permis l'octroi d'un prêt d'une autre banque, EcoBank, à l'époque. Vous êtes encore en train de rembourser ?
On est en train de rembourser.
Vous remboursez bien
en 2018.
Vous êtes un...
Ça dépend des mois. Parce que, comme je dis, la transformation, ce n'est pas évident. Il y a des périodes où ça marche vraiment très bien. Par exemple, les périodes de Ramadan, les fêtes de Tabaski et de Ramadan. Mais... les périodes comme décembre, novembre, par exemple, c'est des périodes où les gens sont plus concentrés sur la rentrée des enfants, sur le 31 à fêter, Noël. Donc, ce n'est pas des produits consommés.
Pourtant, l'alimentation, on mange bien 2 ou 3 fois par jour quand même.
Oui, mais pas forcément les céréales. En fin d'année,
Ce sont des produits qui sont plus chers que les céréales de base, forcément, puisque vous apportez une transformation.
Une plus-value, vraiment, on a beaucoup investi. Vous voyez l'emballage. On a investi sur la production, sur l'emballage. Donc, ça fait que... ces produits, on peut dire que c'est réservé à une certaine niche. C'est des jeunes qui ont un certain niveau de vie, au fait, qui peuvent se permettre. Mais les plus pauvres,
malheureusement, prête ou
pas...
une céréale déjà transformée pour préparer un couscous,
etc. Et on est en train de travailler dessus pour que le coût de production puisse baisser et que ce ne soit pas simplement un produit de niche pour une certaine population à Bamako, mais que tout Malien et toute Malienne puissent acheter ces produits et avoir accès.
Alors, quels sont vos problèmes, vos difficultés que vous voulez exposer aux 2 coachs en face de vous, la banquière et le coach Didier ?
Le premier fond, comme je vous ai dit, c'est vraiment, on est étouffé par ça, c'est le financement. On est là actuellement, on a la capacité de produire, mais on n'a pas de matière première à notre disposition. Et pour le moment, je ne me vois pas prendre un autre prêt parce qu'on a un prêt quand même sur 5 ans.
De 75 millions de francs CFA.
Oui, c'est ça.
Et vous êtes endetté jusqu'en 2018 déjà.
Jusqu'en 2018, maintenant, ce que j'aimerais demander au coach,
vous ne demandez pas un prêt à EcoBank déjà là.
Non, j'avais déjà demandé, ils m'ont refusé.
D'accord, ok. Bon, donc vos
les
questions.
Les banquiers, ce n'est pas les bons samaritains. Hein.
Oui, mais ce n'est pas une question de bons samaritains, mais si vous voyez qu'actuellement, toutes les banques commencent à courir vers les entrepreneurs, c'est que nous, on a été des exemples qu'ils ont réussi. Et là, ça les intéresse. Mais à l'époque où on a demandé le prêt, ça ne les intéressait pas. C'était évident parce qu'ils ne connaissaient pas le secteur.
Donc votre première question, elle est d'abord financière. Quelle est-elle exactement ?
Comment avoir accès à la matière première et sans prendre de financement, en fait.
Sans reprendre un prêt.
C'est ça. Et sachant que les producteurs au Mali ont besoin d'être payés tout de suite. Ils n'ont pas donné de délai
contrairement aux supermarchés qui, eux, vous payent en retard quand vous livrez de la marchandise, non ?
On a quand même une certaine chance. La plupart des supermarchés payent vite.
Parce que
nous, on vend ce jamais. C'est les exportateurs céréaliers qui
d'accord. Alors, sur cette première question du financement, vous l'entendez bien, là, Didier Akwete Koumbatouré, à l'atout, ça marche, hein, son unité de transformation, et pourtant, il y a un problème de cash.
Sous réserve de ce que Koumba va répondre, c'est le problème de beaucoup d'entreprises qui se développent. Donc, vous n'êtes pas un cas isolé. C'est-à-dire que vous manquez de fonds propres, en réalité. Vous avez investi massivement. Aujourd'hui, vous n'avez plus de ressources pour financer, en fait, le day-to-day. Et à ce moment-là, il faut renforcer vos fonds propres. Est-ce que vous avez parlé à un fonds d'investissement ? C'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ? Est-ce que vous avez pensé ouvrir le capital pour renforcer un petit peu vos fonds propres ? Parce que ça, c'est un vrai problème. Le banquier, c'est la première chose qu'il va regarder.
Mais parce que pour l'instant, c'est une entreprise familiale. Vous et puis les parents qui regardent de loin.
Mais avant que le banquier ne réponde de manière plus technique, moi, j'ai 2 observations. La première, c'est qu'il y a une dimension cyclique quand même dans votre activité qu'il faut résoudre. Et vous l'avez dit, il y a des périodes où les ventes sont très basses. Donc, est-ce que votre gamme de produits aujourd'hui vous permet d'avoir un cycle d'activité cohérent, régulier, qui permet que chaque mois votre trésorerie ne souffre pas? Ça, c'est un problème. Donc, en termes de gamme de produits, et je me demande si, en termes de diversification, sous réserve bien sûr la réalité du marché, s'il n'y a pas des une production à faire, s'il n'y a pas des bouillies à faire en sachet que les gens peuvent acheter au bord de la route, parce que vous avez déjà beaucoup de matières premières que vous pouvez liquider si vous diversifiez votre production. Deuxièmement, l'ensachat, je vois que c'est des gros sachets. Est-ce que les gens ont forcément besoin d'acheter des gros sachets tout de suite alors qu'ils ont des petits besoins? Donc le conditionnement, je me demande s'il n'y a pas peut-être une réflexion
vendre plus petit, donc plus cher au kilo aussi, en général.
À mener peut-être, il faudra qu'elle regarde sa stratégie. Mais je pense qu'autour de l'offre produit, il y a peut-être quelque chose à imaginer pour éviter ce côté cyclique de votre business. Et aussi, au lieu de vendre que par sachet d'un kilo aussi. Parce que sur nos marchés, on voit bien que les gens consomment peut-être parfois par jour. Je ne viens pas acheter un sachet d'un kilo alors qu'il a peut-être besoin que de manger ce jour-là.
En Inde, on vend bien des petites doses de shampoing à l'unité pour les travailleurs journaliers qui achètent leur shampoing de la journée. Pourquoi, effectivement, on n'imaginerait pas quelque chose de ce type?
Ça ne règle pas son problème de trésorerie.
De trésorerie. Alors, Koumba Touré, sur le problème de trésorerie.
Donc, sur le problème de trésorerie, forcément, il faut de l'argent pour pouvoir payer les producteurs. Donc, ce qui serait important d'avoir en termes d'information et d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse technique du dossier et par rapport à la situation actuelle, c'est justement de faire une évaluation très claire de votre cycle d'exploitation. Puisqu'en amont, vous avez des producteurs, puisque c'est un projet agroalimentaire et que vous avez aussi un historique, donc il est possible d'avoir des informations sur votre cycle d'exploitation qu'il faut maîtriser. Comment ou quand devez-vous payer les producteurs, les fournisseurs de matières premières? Comment est-ce que vous êtes payé également par vos clients? Est-ce que vos clients vous payent cash, vous payent avec un délai que vous leur accordez, ce qui fait que vous aurez un gap, un écart dans la trésorerie. Donc, si je pars également à l'atout, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment impliqué dans votre projet, parce que ça, c'est également quelque chose de fondamental. Ce que disait Didier tout à l'heure, à côté, est fondamental. Vous n'êtes pas une start-up, comme on le dirait, puisque vous avez un historique depuis 1992 que l'entreprise a été créée. Comment s'est passée la gestion? Pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas assurer la trésorerie de votre entreprise?
À l'atout. Quand on était dans l'ancienne unité, on maîtrisait parfaitement notre trésorerie parce que franchement, on avait des fonds de roulement, on gérait bien. Mais en investissant autant, et en
dans les machines,
dans le bâtiment
dans
même,
l'exploitation,
et le déménagement.
Elle a changé d'entreprise, elle a changé de dimension.
C'est ça, carrément. Et on a augmenté le personnel, les frais d'électricité ont augmenté, il y a
tous
plein de choses qui ont changé. Et on s'est vraiment retrouvé à court parce qu'on avait déjà investi tout ce qu'on avait. Et on s'est retrouvé à juste rembourser le prêt maintenant et à faire la production qu'on faisait déjà. Maintenant, nous, on veut augmenter cette production parce que la demande est là. Et on est en train aussi d'investir dans la certification ISO 22000. Et dans le HACCP, parce que
pour pouvoir exporter,
il faut être certifié. Donc, c'est vraiment des investissements.
Est-ce que vous ne courez pas trop de lièvre à la fois, comme on dit chez nous, finalement?
Oui, Emmanuel, pour dire à l'atout, moi, en termes de recommandations, parce que lorsque je regarde les investissements que vous avez faits, est-ce que vous avez fait ces investissements-là avec, je veux dire, du cash? Parce qu'un investissement, il y a un amortissement des équipements et qui doivent obéir à l'établissement d'un business plan. Lorsque vous utilisez de l'argent court terme, on va dire, pour faire des investissements qui vont s'amortir sur du long terme, forcément, vous arrivez à créer un problème dans votre caisse de tous les jours pour pouvoir décaisser. Donc la recommandation, c'est que justement dans le plan d'affaires, le plan d'affaires est un élément très important. Et lorsque vous décidez de changer de stratégie et de changer d'orientation tel que cela a été fait, c'est un changement qui est très capital, qui est capital pour votre entreprise. Donc ça partait sur un plan d'affaires qui devait être établi. Vous devez définir tous les états prévisionnels, les cash flows que vous allez générer et l'impact que ces investissements auront sur vos états financiers pour pouvoir dégager assez de cash pour pouvoir faire face à votre activité au jour le jour. Partant de là, la question est toujours, nous n'avons pas obtenu le financement. Mais en face également, vous avez un banquier qui a une entreprise qui doit gérer les risques qui lui sont présentés. Et donc, Vous avez également parallèlement et en alternative, surtout lorsqu'il s'agit d'un projet agroalimentaire, vous avez en alternative des fonds d'investissement qui peuvent être là et constituer une alternative à une banque commerciale qui va peut-être travailler plus sur du court terme, sur vos besoins en fonds de roulement, que plutôt sur des besoins qui sont d'un terme plus lointain.
Comme vous n'avez pas de problème de clients, si vous avez des clients qui peuvent vous signer des contrats d'achat peut-être sur 12 mois, qui sont des clients fiables, reconnus par la banque, peut-être la banque peut vous faire une avance de trésorerie sur la base de ces encaissements qu'elle va en fait encaisser à votre place en contrepartie.
Et même éventuellement garantir les paiements que vous devez faire aux fournisseurs sur la base de cash qu'elle sait qu'ils vont arriver et de façon sécurisée.
À l'atout, vous avez une deuxième question qui concerne vraiment votre personnel. 23 personnes à l'heure actuelle dans cette petite unité de transformation de céréales à Bamako.
Oui, actuellement on a des problèmes de main d'œuvre aussi, de qualité, parce qu'on n'a pas un responsable qualité pour nous amener vers la certification ISO 22000. On a recruté deux personnes. La première personne, elle a eu quelques formations, elle est partie. Elle a eu un emploi plus rémunéré, elle est partie. La deuxième personne, c'est pareil. Maintenant, nous, on se retrouve vraiment sans personne qualifiée pour nous aider à cela. Et ma question, c'était comment motiver ces jeunes à rester dans l'entreprise, une entreprise qui démarre, qui investit, mais qui ne peut pas assurer un certain niveau de salaire.
Oui. Bon, parce que vous, cette entreprise, c'est toute votre vie, hein, l'atout. Vous y passez 6 jours sur 7, et donc vous aimeriez bien que pour les jeunes qui travaillent, ça soit la même chose.
Sur des expertises ponctuelles, comme le processus qualité que vous voulez gérer, prenez un consultant qui vous apporte une expertise, qui forme ceux qui sont là, et au moins, ce n'est pas un employé que vous allez perdre. Donc, prenez un consultant. Deuxièmement, après les jeunes, vous savez, il n'y a pas que vous-même, les grosses entreprises. Quel plan de carrière vous leur proposez? Quels avantages sociaux vous leur proposez? Ça, malheureusement, toutes les entreprises sont concernées. Les petites, encore plus. Parce que c'est vrai, une petite entreprise n'a pas les moyens forcément d'offrir tout un éventail d'avantages. Mais au moins, s'il y a un plan de développement de carrière avec un peu de formation, ça les oblige à rester quelques années. À la limite, après, vous intégrez dans votre business model le fait que les jeunes viennent de 3 ans, ils s'en vont et vous l'intégrez. Et il y a des modèles comme ça jusqu'à ce que l'entreprise se stabilise et arrive à garder ses employés avec un certain nombre de plans de carrière, de systèmes de gestion de ressources
humaines. C'est le problème de beaucoup de petites entreprises sur le continent africain.
Et pas qu'en Afrique d'ailleurs.
Bon, vous y croyez à ce projet Alatout, le projet d'Alatout?
Oui. Les produits existent, ça se vend, il y a un marché, ça se consomme. Bon, donc c'est déjà une bonne raison.
On arrive bientôt au terme de cette première partie. Bien sûr, Alatout, vous restez avec nous. On va maintenant passer le micro à Boubou.
Okay. Bonjour à Emmanuel, bonjour à Didier, bonjour à Madame Koumba.
Boubou, vous avez 21 ans, vous êtes originaire de Djéné au centre du Mali. Vous avez eu votre bac à Djéné, puis vous avez fait des études de droit et vous êtes devenu juriste à Bamako. Au départ, je crois que vous vouliez même être avocat, non?
Oui.
Ouais. Et puis vous êtes tombé dans ce projet que vous n'arrivez pas à faire démarrer, qui est de commercialiser du lait frais. Hein. Et c'est vrai que le lait frais au Mali, bah, soit on connaît un éleveur, on va le chercher au pied de la vache, soit on achète du lait en poudre, hein, si j'ai bien compris.
Oui, oui. Ouais.
Alors vous restez avec nous, Boubou. Hein. Okay. Oh, bien sûr, on va vous donner la parole. Nous allons rendre l'antenne pour le flash à Paris. Et puis ensuite, on se retrouve bien sûr à Bamako pour la suite de 7 milliards de voisins avec les deux coachs, Didier Akwete, Koumba Touré, et la suite de vos projets, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent, les JPAG chez 7 milliards de voisins. A tout de suite, restez avec nous. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression. I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards are far where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine, only one at a time. My life, my life, yeah.
Découvrez une série de reportages.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. L'émission est installée à Bamako, à l'Institut français, à la veille du sommet Afrique-France. Suite de notre émission avec le coach Didier Akwété, Koumba Touré, banquière, et les projets, voire les entreprises, hein, pour celles qui ont déjà démarré, des jeunes qui se battent pour convaincre, pour imposer leurs produits sur le marché malien, voire africain. Ils représentent une nouvelle génération dans le secteur, alors aujourd'hui, de l'agroalimentaire, puisqu'on a 3 projets de l'agroalimentaire avec 3 jeunes de 21 à 31 ans. Ils sont, ces jeunes, on le sent bien, davantage à l'écoute des nouveaux modes de vie, des nouvelles envies aussi des consommateurs. Et surtout, ils souhaitent tous les 3 représenter une Afrique qui gagne. Mais c'est vrai que quand même, la route est semée d'embûches. Alors Boubou, on vous a entendu à la fin de la première partie, juste après le projet d'Alatou de transformation de céréales. Vous, Boubou, vous avez 21 ans, donc vous êtes originaire de Djéné dans le centre du Mali. Vous venez d'une région qui est, on va dire, bien irriguée par le fleuve Niger, où il y a des vaches, hein, des pâturages.
Beaucoup,
et vous vous dites, il faut vendre du lait frais dans le reste du Mali et pas seulement au pied de la vache. C'est ça votre projet, hein?
Oui.
Pourquoi donc?
Oui, avant de répondre à quoi Bouboulet, il est important de savoir pourquoi même initier Bouboulet. Quand je vivais au village, donc étant à Djéné, les agriculteurs, les éleveurs, ils produisaient beaucoup de lait. Du coup, après 24 heures, ce lait n'est plus bon parce qu'on n'arrive pas à le conserver.
Vous voulez dire que ce lait est jeté à l'heure actuelle?
Jeté, oui.
Il n'est pas transformé,
Il n'est pas transformé
en yaourt, en lait caillé?
Rien. Donc, au finish, on les jette. Parce qu'on ne peut pas le conserver aussi longtemps, donc il faut
Il vaut mieux le jeter que le rendre les gens malades. Hein.
Oui, oui. Non, mais d'accord, mais enfin bon, ça fait mal au cœur quand même.
Oui,
hein.
Oui. Donc du coup, l'idée c'est de pouvoir aider ces agriculteurs, ces éleveurs à mettre en place une unité de conservation et de transformation de lait qui va les aider à devenir un peu plus indépendants, autonomes et pouvoir aussi augmenter leurs revenus. Donc il y aura une équipe qui va faire la collecte et puis tout ça, donc...
Vous êtes 3, hein, vous êtes 3 jeunes dans ce projet.
Oui, nous sommes 3.
Voilà, il y a une fille qui parle Peul couramment, pour être en lien avec les éleveurs.
Oui.
Vous êtes en contact avec à peu près 200 éleveurs?
Oui, 200 éleveurs qui sont vraiment contents de l'idée et puis du projet. Ils sont vraiment partants parce que ça fait vraiment un bon moment qu'ils attendent ça.
Est-ce qu'il y a de la concurrence sur le segment du lait frais? Il y a déjà des entreprises qui parviennent à commercialiser du lait frais jusqu'à Bamako, dans les épiceries?
Il n'y a pas de concurrent pour le moment parce que les laits naturels, on n'en trouve pas.
Ouais. Donc, ce que vous appelez le lait naturel, bon, nous en France on appelle ça du lait frais, hein, c'est C'est-à-dire qu'on achète au rayon frais qui est froid. Quoi.
Oui.
Donc on achète du lait en poudre ou rien. Ouais. Vous avez lancé une campagne de crowdfunding il y a un mois.
Il y a un mois.
Vous avez récolté combien?
J'ai récolté 887 950, donc ce qui
Donc
ce qui représente seulement 10% du fonds nécessaire pour la réalisation de ce projet.
Donc vous avez récolté à peu près 1300 euros.
Oui.
Mais vous avez des fonds propres à mettre? Vos deux autres amis ont des fonds propres?
Pas trop, ils m'existent un peu.
En tout cas, vous avez quand même gagné le prix du Best Crazy Crowdfunder en décembre dernier, c'est ça? Je ne connaissais pas ce prix.
Oui. Le prix du meilleur crowdfunder en une heure. L'idée, ça consistait à pouvoir la personne qui va peut-être avoir en une heure la personne qui arrive à récolter plus de fonds.
Ouais.
J'ai pu récolter en une heure 250 000, donc j'étais le premier.
Ah oui, d'accord, quand même. Alors, ça a l'air simple comme ça. D'un côté, on jette du lait. De l'autre, vous estimez qu'il y aurait des consommateurs qui auraient envie de boire du lait frais, qui connaissent les bienfaits, bien sûr, hein, du lait frais pour les enfants, le calcium, etc. Et pourtant, vous vous heurtez à plusieurs problèmes pour démarrer cette petite entreprise Bouboulet.
Oui. Des problèmes de financement pour un début et puis quelques problèmes techniques aussi. Je n'ai pas encore démarré. Il me faut encore plus de... Des industriels qui sont spécialisés en la transformation et la conservation de lait naturel. Ouais.
Donc vous avez un problème d'emballage et de conservation.
Voilà.
Ouais. Bon, alors vos questions au coach, à Koumba Touré, la banquière, à Didier Akwété.
Comme le crowdfunding ne fonctionne pas très bien, comment trouver d'autres aides au financement du projet? Donc la deuxième, c'est comment trouver les partenaires spécialisés dans ce domaine pour obtenir des conseils sur la conservation de lait et développer les emballages.
Alors on commence peut-être par le crowdfunding, qui n'a rapporté que 10% de la somme nécessaire, Koumba Touré. Vous voulez compléter en tant que banquière d'Ecobank? Comment vous réagissez en tant que banquière à ce projet?
C'est-à-dire que le projet tel que Boubou le présente est caractéristique des projets que l'on pourrait avoir dans le domaine des PME et des porteurs de projets, en fait, c'est que ça reste toujours un petit peu informel. Je pense que c'est un projet qui gagnerait à être beaucoup plus formalisé, qu'il ait la possibilité d'être exprimé à travers une analyse de marché, à travers l'analyse de la concurrence, à travers l'analyse des habitudes du pays dans lequel nous sommes, en sachant que...
Vous n'avez pas fait d'analyse de marché, tout ce que vient de citer Kumba ?
Pas encore, parce que je viens juste de terminer la campagne, donc c'est maintenant que je compte bien.
D'accord.
Voilà. Et si vous ne formalisez pas cet aspect-là, on ne peut pas évaluer avec vous la pertinence de votre projet. Est-ce que c'est un projet qui va porter ? D'autant plus que vous n'êtes pas le premier, en fait, dans le domaine. Il existe quand même quelques entreprises qui font le conditionnement de ce lait. Et ce n'est pas un niveau industriel encore, mais ce sont des entreprises qui existent. Et ce projet d'entreprise doit être accompagné d'un projet financier. Ce projet financier, c'est ce projet qui va permettre d'évaluer la faisabilité de votre projet, qui va permettre de voir quel est le sérieux du projet. Donc, comment est-ce que vous le portez ?
Vous dites, en gros, j'ai pas grand-chose pour juger, en fait.
C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ça reste pour moi une idée. Ça reste le souhait de faire quelque chose parce qu'on perçoit une opportunité dans ce secteur, donc qui ne peut pas être présenté à des partenaires.
Donc, pas un banquier ?
Pas un banquier, parce que les partenaires, ce sont les partenaires, autant les autorités, à travers des agences de promotion d'investissement, pour obtenir des facilités liées à l'enregistrement d'une structure et avoir des exonérations si vous devez utiliser des équipements. Ça ne va pas être facile non plus pour des partenaires financiers comme un banquier, parce que nous n'avons pas d'éléments sur lesquels nous baser pour évaluer la faisabilité du projet, encore une fois.
Didier Akouété.
Effectivement, c'est le point de départ pour pouvoir lever des financements, même s'ils ont été séduits sur le net quand j'ai fait le crowdfunding. Après, ils vont vous demander un peu plus de
chiffres. Sur le problème de la conservation et de l'emballage, est-ce que c'est un vrai problème ou...
Non. Les solutions existent, vous n'inventez rien du tout, ça existe. Même vous allez sur Internet, vous trouverez plein de prestataires qui vont vous envoyer des conservateurs, etc. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore de vrai projet. Moi, je vous conseillerais de faire une phase test. Parce que vous êtes dans une région où vous dites, on produit du lait. Vous achetez des conservateurs. Sur Internet, vous avez toutes les solutions. Parce que vous avez 800 000. Ou même vous demandez ce qu'on appelle Love Money, Friends and Family. Vous faites un test dans 5 ou 10 bouteilles. Vous essayez de le vendre dans la région où vous prenez le lait. Parce qu'après, il y a un problème de transport et tout ça. Faites un premier test grandeur nature. Donc, je prends 10 bouteilles, je lave bien, stérilisé. Je trouve les conservateurs qui permettent de garder le lait frais pendant 2, 3, 4 jours selon les solutions techniques que vous aurez et vous faites un test. Vous regardez la réaction du marché. D'accord. Donc si sur une population, je sais pas, de 100 personnes, 200 personnes, 10 achètent et la première heure vous n'en avez plus, vous dites « Ah tiens, on dirait que ça marche ». En plus, le lait est bien conservé. Vous le buvez vous-même, vous n'êtes pas malade, c'est pas mal. Vous faites 20, vous faites 30, vous allez voir, vous commencez à avoir une réalité de votre marché qui vous permet... quand vous allez voir le banquier, de dire non seulement j'ai commencé, mais regardez, le marché réagit. D'accord. Et voilà mon business plan, maintenant je veux faire un vrai business de ce projet, ne serait-ce que déjà dans ma zone de, entre guillemets, ma zone cible que vous devez définir, j'ai des consommateurs potentiels, 1000 consommateurs potentiels, 5000, 10000 ou 300. Et vous allez construire progressivement votre modèle, parce que vous n'avez pas d'expérience, vous êtes jeune, c'est pas un reproche. Et la première des questions qu'on posait, mais comment vous allez faire ? Vous n'avez jamais géré, vous ne connaissez pas l'industrie laitière, vous ne connaissez pas l'industrie agro-business. Vous n'allez pas recruter un expert parce que vous ne pouvez pas le payer. D'accord. Peut-être, là, c'est la deuxième idée. Si vous avez quelqu'un plus mature, qui a déjà fait cette industrie, qui se dit, tiens, le projet de Boubou me passionne, je vais l'aider, ça, vous aurez un mentor. Et le mentor, il va vous guider. Il va être celui qui va aller voir le banquier avec vous en disant, Boubou, je crois dans son truc. En plus, on a fait un test. Et là, vous allez voir, le projet prend une autre dimension qui peut vous permettre d'en faire une véritable affaire industrielle ou semi-industrielle. Mais tant que vous n'avez pas le business plan, ça reste une idée. Mais comme vous avez déjà bien formaté l'idée, faites un premier test, ne serait-ce qu'avec 5 ou 10 bouteilles et un petit conservateur que vous pouvez même commander sur Internet.
Voilà, et puis vous prenez des notes et vous interrogez les consommateurs, hein, surtout, savoir s'ils sont satisfaits, etc.
Tout à fait, je peux compléter juste très rapidement pour dire que si vous ne pouvez pas autour d'un projet vous-même, vous pouvez avoir un mentor, c'est un début, pour qu'il vous amène vous-même à vous plonger dans votre projet et dans votre projet dans toute sa dimension et la dimension de gestion. Parce que si vous ne pouvez pas prévoir vous-même les rentrées d'argent, les sorties d'argent, tester la résilience de votre projet pour faire face aux difficultés qui vont apparaître, et ces difficultés, elles seront là. Et un projet que vous pouvez bâtir, aussi bien bâti est-il, quand vous avez des partenaires en face, il peut être totalement remis en cause parce que peut-être il y a des éléments que vous n'avez pas intégrés. Donc il est important que pour vous-même, petit à petit, vous rentriez dans une dimension qui est une dimension de gestion et de formalisation de votre projet.
Okay. Boubou lait, en tout cas c'est un nom que vous retenez, hein.
Bouboulé, bon, ça,
un jour, on pourra acheter du lait frais à Bamako.
Le bouboulé, il va être populaire bientôt.
Restez avec nous dans quelques instants. On passe la parole à Aïssata.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant. Avec le coach Didier à côté.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, l'émission est enregistrée à Bamako. Nous sommes en effet à l'Institut français du Mali pour le rendez-vous des jeunes patrons de l'Afrique qui gagne. 3 jeunes et puis 2 coachs, une banquière pour Nkoumba Touré et Didier Akouété. On passe la parole maintenant à vous, Aïssata, vous êtes la troisième candidate. Aïssata, alors vous, votre boîte a déjà démarré, hein. Vous avez un projet intéressant, vous avez 27 ans, vous êtes originaire de Mopti, vous avez passé votre bac à Bamako, ensuite vous avez étudié l'agroalimentaire, l'agrobusiness, vous avez d'ailleurs étudié en France, hein, je crois, dans une école de commerce, hein, c'est ça,
c'est ça, oui.
Et puis vous êtes revenu au Mali, vous faites partie de ces repates, comme on dit, parce que vous croyez au développement du Mali, et vous avez lancé une petite entreprise qui s'appelle Zaban Holding.
Exactement.
Ça veut dire quoi ?
En fait, Zaban, c'est le nom d'un fruit qui est le plus célèbre d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle Zaban au Mali, Mad au Sénégal et Nsaba en Guinée.
Et c'est
un fruit sauvage qui a beaucoup de vertus, qui a la possibilité d'éveiller les papilles gustatives rien qu'à l'œil nu, en fait. Donc, rien que pour ça, et son histoire, qui est un peu longue, que je ne vais pas étaler ici, qui est sur notre site internet, m'a poussée à prendre le nom de ces produits-là dans l'objectif de développer des marques en valorisant tout ce qu'il y a autour de moi.
C'est ça. Alors, le principe, c'est de vendre, enfin de transformer et de fabriquer des jus de fruits hyper bon pour la santé, pas de sucre ajouté, fabriqué dans une petite unité de transformation à Bamako. Pour l'instant, vous êtes 5, hein?
Oui, pour c'est l'instant, l'équipe est juste 5 personnes.
Ouais.
Et
vous vendez, oui, c'est ça, tout le monde fait tout, oui, c'est la start-up.
Oui.
Vous vendez dans les hôtels, dans les bars, les restaurants, c'est ça?
On essaye de développer, créer notre marché, être un B2B.
Ouais.
Et c'est différencier de ce qui se fait déjà.
Ces jus, alors moi je ne les ai pas encore goûtés, mais je sais qu'il y a toute une gamme. Il y a le jus roi, c'est ça, baobab mangue.
En fait, la gamme Zaban, c'est la gamme royale qui présente toute une histoire d'une famille royale. Donc il y a le roi, la reine, jusqu'au guerrier, la guerrière. Et chaque produit apporte un plus-value aux consommateurs.
Bon,
en fait.
Alors soit c'est baobab mangue, soit c'est hibiscus baobab mangue, le hibiscus gingembre.
Exactement, il y a beaucoup de saveurs en fait dans la gamme. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai apporté l'échantillon du guerrier, qui est un mélange de kinkidipa,
ouais,
moringa.
Parce que vous êtes un peu une guerrière quand même, hein, sur le marché.
Bah, c'est bon, alors, ça pour le guerrier.
Bah, voilà, c'est ça, on va goûter à la fin de l'émission. Vous vendez ça combien, Aïssata? Une petite bouteille de 250 millilitres.
En fait, c'est un produit haut de gamme. Qui je vends un peu plus cher. Il est pour les supermarchés, par exemple, le prix public, je pense qu'ils sont entre 1000 et 1500 en fait.
Donc c'est quoi au minimum 1,50€, hein.
Oui.
Donc juste quand même à côté du coca, il n'y a pas photo, hein. Une canette de coca, c'est 38 centimes, c'est ça à peu
oui,
près.
Oui, mais je suis très loin des coca parce que il y a toute une. Je travaille sur une chaîne de valeur, c'est des produits de qualité. Et la gamme Zaban est issue de plus d'un an de recherche et développement. Et elle est peut-être très innovante, qui n'existe ni en Occident. Et même si je commence au Mali, il y a une grande ambition derrière pour le développer même à l'international.
Alors il faut dire que vous avez quand même gagné 7 prix à l'international, hein. Le programme Entrepreneur en Afrique de Campus France, le programme des Nations Unies. Vous avez gagné le programme du Sommet Mondial des Jeunes en Agrobusiness. C'est incroyable, vous rencontrez un vrai succès d'estime. Mais effectivement, côté business, vous avez encore pas mal de difficultés. C'est pour ça que vous voulez vous adresser aux deux coachs.
Exactement, c'est vrai, c'est très difficile.
À l'atout, sur le terrain.
C'est vrai, c'est très difficile. Malgré ces prix, j'ai beaucoup investi. J'ai fait mes études en alternance, mes épargnes sont parties dans le projet parce que j'y croyais depuis le début et j'essaye de mettre aussi toute une rigueur pour valoriser les produits d'Afrique parce que même en France, dans les rayons, on n'est pas représenté. Alors qu'en plus de potentialité, on est un peu les meilleurs dans le monde. Ça, je l'assume. Et donc,
Côté financier, ça a été très difficile. D'ailleurs, Kumba m'a un peu coaché auparavant. Jusque là, j'ai approché fonds de garantie, d'autres fonds de développement qui ont été couplés à des prix que j'ai gagnés. Mais là, je démarre tout timidement, on va dire. Mais la grosse question, c'est accompagner tous les développements avec l'ambition qu'il y a dans le business model.
C'est ça, donc rentrer dans un réseau financier, en fait. Hein.
Oui, un très gros réseau financier, mais avec vraiment des conseils là-dedans. Et
vous êtes inquiète aussi d'autres choses, hein, c'est de la protection de votre concept.
Exactement.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tout est nouveau, en fait. Ça n'existe pas. Ça fait que j'ai eu d'autres structures qui ont essayé de m'approcher pour piquer un peu, notamment en termes de process industriel.
Ah oui, des plus gros que vous qui veulent vous copier ou pas? Parce que je sais que vous faites toute une campagne marketing sur les réseaux sociaux, enfin, à l'image de votre génération, finalement.
Hein, exactement.
Aïssata. Et donc, on se dit, cette petite, on pourrait faire la même chose et réussir, nous, c'est ça?
C'est vrai. Et d'un côté, c'est qui tout double, ça apporte une notoriété. En même temps, le marketing dans l'agro-business, c'est ça, l'agro-business qui fait aussi.
Ouais.
C'est faire connaître
Alors,
la marque.
Qu'en pensent les coachs, là, à la fois sur le manque de financement et puis la protection du concept, hein, Kumba Touré, sur les finances, hein,
sur le financement, comme le dit Aïssata, nous avons eu l'occasion d'échanger sur le dossier. C'est un dossier qui a été quand même analysé par quelques banques de la place et le projet avait été accepté dans son principe. Le financement et l'accompagnement de Zabon Holding a été accepté dans son principe avec des conditions financières d'accompagnement qui sont liées à tout dossier de crédit. Il ne s'agissait pas de EcoBank, mais dans les termes financiers qui ont été proposés à Aïssata, je pense qu'elle avait des préoccupations, notamment par rapport à la participation que la banque voulait avoir dans la gestion de la structure. Et ce qui était important de faire, c'était justement de regarder quel aurait été l'impact. Est-ce que ça allait lui permettre d'avancer? Est-ce que ça allait lui la freiner plus? Mais c'était quand même une ouverture. Et à mon sens, ça méritait d'être analysé et de travailler avec des professionnels. Et c'était ça aussi la recommandation qui a été faite à Aïssata. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, il est important de se faire accompagner. Elle ne peut pas à son seul niveau apprécier l'impact de tout ce qui lui est apporté ou tout ce qui lui est proposé en termes de financement. Donc cet accompagnement était important pour elle et je ne sais pas quelle a été si elle a fait le travail et quelle a été la suite parce que les conditions quand même d'accompagnement étaient là.
Ouais.
Et pour moi, c'était une opportunité qui existait dès lors qu'elle avait eu la possibilité de voir des professionnels et d'évaluer l'impact de... Je pense que c'était lié à la participation de la banque en question dans le
capital. On voit bien quand même que les jeunes ont du mal à être sur la même longueur d'onde que les financiers quand même là. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont trop seuls aussi face aux banquiers? Didier, à côté, comment vous voyez cette question-là? Et puis aussi le problème de la protection du concept et du modèle, puisque c'est ce qui inquiète Aïssata.
Alors, sur la discussion financière, je ne connais pas le détail, mais clairement, je sens qu'il y a un vrai projet industriel où une banque peut mettre beaucoup d'argent, mais qui veut être assurée au niveau de l'accompagnement humain et de la gestion, ce que d'ailleurs fait un fonds d'investissement. Si un fonds d'investissement vient, il va vous imposer un directeur financier, peut-être même demander qu'on change de management, parce que la banque a besoin d'être assurée.
Sur le positionnement prix, ça ne vous inquiète pas, ça, le fait qu'il soit un prix très haut de gamme.
Si le produit original, et apparemment, elle a choisi un segment de marché haut de gamme, donc une clientèle qui est capable d'acheter ce produit, ça veut dire que le produit est adapté. Sur la protection, alors moi, sur les questions de protection, je suis beaucoup plus réservé, parce que ça reste un jus, ça reste des fruits, tout le monde peut copier la même chose.
Bon, il n'y a pas de formule magique.
Même si, enfin, même
c'est pas ce qu'a l'air de dire Aïssata.
Non, mais attendez, la fameuse formule magique de Coca-Cola, je ne sais pas si c'est une illusion, en tout cas, voilà. Mais tout le monde copie. Donc, je crois que c'est vraiment votre capacité à imposer une marque, un concept, un art de vivre autour de votre marque, que tellement la composition, les fruits, etc. Le goût, bien sûr, important. C'était un environnement, c'était un univers que vous allez créer autour de votre marque.
Ouais, vous en avez conscience, Aïssata, de raconter une histoire autour de ça,
voilà.
Un jus qui est bon pour la santé, etc. Alors pourquoi ça ne démarre pas plus fort, hein?
2016, ça a été l'année de la création de l'entreprise. Comme vous voyez, ça m'a pris quand même plus de 3 années de développement, le temps d'avoir un bon réseau de distribution, un bon réseau d'approvisionnement et aussi la normalisation, le packaging, c'est l'un des facteur clé en agro-business. Donc tout ça, c'est des choses qui m'ont pris beaucoup, beaucoup de temps. De bâtir un réseau déjà sur place et un autre réseau à l'international. Et j'ai créé l'entreprise cette année. J'ai changé pas mal de choses. Enfin, l'année 2016. C'est ce qui a fait que c'était une année de test, une première année. De tester les marchés, d'aller voir les consommateurs, même les clients. J'ai été les voir en dégustant les produits pour les convaincre déjà d'accepter un B2B et avec les deux commerciaux qui me suivent depuis. Donc, c'était tout un démarrage qui a fait. Après, j'ai été confrontée à plusieurs réalités.
C'est ça.
Parce que venu de la diaspora, on retombe et il faut tout recommencer. D'ailleurs, j'ai toujours écouté plein de personnes, donc beaucoup de mentors qui m'ont dit « attention, etc. »
Sur le fait qu'il faut étoffer votre équipe, qu'il faut des juristes, c'est un peu ce que vous disiez, hein, les coachs là-dessus. Alors, ça va être la prochaine étape, c'est ça maintenant?
En fait, quand je suis venue, à l'époque, quand j'avais vu Kumba, je suis repartie, j'avoue, je me suis renforcée.
Parce que quand on est entrepreneur, le rendez-vous chez le banquier, ça sert quand même.
C'est vrai, parce que malheureusement, quand on démarre avec une PME, notamment dans le secteur de l'agro-business comme ça, on a besoin de tout en fait. Fiscalité, la finance, mais vraiment toutes les compétences. Et l'entrepreneur, on sait pas tout
plus,
faire des
plus
fois.
Tout l'aspect technique, parce que c'est de l'agroalimentaire et qu'on vend pas des cartes de téléphone dans la rue. C'est un peu plus compliqué comme produit. Il y a la dimension sanitaire. Alors, c'est intéressant, on arrive au terme de cette émission, Kumba Touré et Didier Akwété, parce que là, vous avez trois jeunes en face de vous, entre 21 et 31 ans. Ils ont tous les trois un projet dans l'agroalimentaire, alors qu'on ne jure en ce moment que par les start-up, le numérique, même s'ils utilisent le numérique comme Aïssata, qui fait toute sa com là, sur les réseaux sociaux pour ses jus. Mais comment vous sentez ce secteur-là, les spécificités? Qu'est-ce qui est en train de bouger là-dedans? En quelques mots, hein, on arrive vraiment à notre conclusion, Kumba Touré.
L'agroalimentaire devient incontournable, notamment au Mali. Et c'est un secteur, en fait, qui est classé parmi les secteurs clés des politiciens de ce pays. Moi, j'ai été contente de voir trois exemples ici, aujourd'hui. Un projet qui est à l'état de projet, qui est bouboulet, qui a besoin d'être mûri et réfléchi. Ensuite, deux autres projets qui ont bien démarré avec des personnes qui savent ce qu'elles veulent, où elles veulent aller. Maintenant, dans le développement, vous ne pourrez pas toujours aller seul. Et ça, c'est important de comprendre cela, parce que lorsque vous voulez arriver à un certain niveau,
c'est leur bébé,
vous ne pouvez
hein.
pas juste...
Il vaut mieux un bébé qui grandit avec des mentors qu'un bébé qui meurt tout seul parce qu'il n'est pas nourri.
Voilà, donc ça, il faudra le comprendre et puis rentrer dans cette dimension-là. Et pour moi, vraiment, vous êtes l'avenir. Et ça, c'est incontournable, je vous dis, c'est l'intégration de la chaîne des valeurs dans le domaine de l'agro-business qui va permettre autant aux banques, parce que nous également, nous apprenons à connaître l'agro-business. Ce n'est pas notre métier de base. Et quand vous devez faire du risque de crédit et l'évaluer, vous devez comprendre ce risque que vous prenez et vous devez gérer et mitiger ce risque. Parce que nous travaillons avec l'épargne quand même des clients qui viennent faire des dépôts chez nous. Ouais. Mais notre rôle, c'est d'octroyer du crédit. Si on ne fait pas de l'intermédiation, nous n'allons pas survivre. Donc, nous sommes dans une dynamique d'accompagner les entreprises. En 2015, sur la place, EcoBank a fait 203 milliards de crédits à l'économie. Donc,
bon, ça c'est pour la cote de popularité d'EcoBank. Le volet publicité pour les jeunes. Didier Akwété.
Non, mais c'est très bien. Nous avons trois profils d'entrepreneurs différents. Et d'abord, la première remarque, c'est qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Chacun entreprend.
Absolument.
Nous sommes dans trois problématiques différentes, donc avec trois réponses différentes. Et ça, c'est ce que je dis souvent aussi. Quand on est une start-up ou on est en développement, le moyen de financement est différent. Selon également la phase du développement de son projet, les équipes dont vous avez besoin sont différentes. Et ça, je crois que c'est très important, les intérêts. Deuxième observation, c'est qu'il manque un écosystème pour accompagner tout ça. Mmh. Je veux dire, on doit pouvoir incuber ces jeunes.
En fait, ils devraient tous les trois, toutes les semaines, avoir rendez-vous avec vous. Et ça marcherait au bout d'un an,
mais
non?
Par exemple, avec des coachs, avec des espaces où ils peuvent aller prendre du conseil, avec une panoplie de financiers, de banques, de business angels, de fonds d'investissement à qui peuvent parler, d'experts en agro-business. La question qu'ils posent est basique. Il est sûr qu'il peut trouver un expert, même Aïssata peut le conseiller, un expert en agro-business qui peut répondre à sa question. Donc, l'écosystème de conseil et d'accompagnement est fondamental pour que ces jeunes deviennent des champions demain.
On va laisser la parole pour conclure aux jeunes. Alors, on va repasser le micro à Alatou.
Je pense que je suis
pour vos céréales.
À un état positif parce que tout ce que DJ m'a conseillé, je pense qu'on a réfléchi sur ça. On avait déjà parlé en famille de comment améliorer le packaging, comment avoir plus de marché possible. Et ce que Koumba aussi a dit, c'est vrai. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que les fonds de garantie, on les a approchés. On a vu le système de gestion qui est dedans, qui ne nous a pas trop scotché. Donc, on les a évités un peu parce qu'il y a certains, ils voulaient même prendre part dans
notre capital.
Dans notre capital.
Et vous voulez
ça
pas,
vous intéressez pas pour le moment.
Oui. Bon, alors là, on revient toujours à ce que disait Didier. Hein. Parfois, il faut s'ouvrir un peu.
Les fonds de garantie viennent en appui aux banques.
Ouais. Bouboulé. Boubou, alors.
Boubou, donc pour dire, les conseils de Didier et Mme Touré m'ont vraiment servi et puis instructif aussi. Et du coup, ça m'a donné une idée parce que pour démarrer, il me faut un bon business plan. Aussi, je dois peut-être commencer avec une gamme qui prouve vraiment que je commence et je fais ça. Mmh. Donc, c'est vraiment important.
Bon,
c'est
vous
vraiment
bonne chance, en tout cas. Hein.
Le Aïssata, fameux bouboulé.
Tu les frais partout au Mali, chez les épiciers.
Donc, je remercie les coachs parce que c'est les coachs qui m'ont inspiré, notamment Didier Akwate dans le passé. Après, c'est dans le cadre du sommet, je fais quand même un plaidoyer parce qu'on est dans un marché enclavé. Nous tous qui sommes là, à part notre matière première des qualités, on importe tout. Et c'est minimum 45 jours depuis l'Europe. Et ça, c'est très scandaleux, en fait. Si on pouvait juste travailler sur ce processus-là pour essayer d'accélérer les choses, faciliter le commerce entre les pays. Et ça peut être super intéressant parce que le marché est viable. Et nous, on croit à nos projets. Je pense que dans quelques années, on va exploser.
Et vous allez faire parler de vous, j'en suis sûre.
Super.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à tous les trois, Aïssata, Boubou, Alatou. Merci à vous également, Didier Akwate Koumba Touré. Je vais redire aussi le nom de Danaya Céréales pour votre entreprise. Alatou et Aïssata, c'est Zaban Holding, c'est les fameux jus naturels. Merci infiniment les coachs. Demain, 7 milliards de voisins. On sera toujours à Bamako, toujours d'ailleurs à la technique Benoît Raymond et Romain Dubrac pour le montage à Paris. Cette fois, ça sera un débat sur l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. S'agit-il d'un mirage ou d'une vraie solution pour l'emploi? Vous entendrez des points de vue différents. Et puis bien sûr, on attend vos commentaires sur les réseaux sociaux. À demain les voisins et les voisines sur RFI, bien sûr, dans quelques instants, le journal.